Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de répondre à une question un peu une question de confiance. Aujourd'hui, dans la vie qu'on mène, on peut se demander finalement à qui il faut faire confiance et à qui peut-être il faut, à l'égard de qui il faut avoir une certaine méfiance, ou disons ne pas se confier d'une manière tout à fait aveugle. J'en parle par expérience. Il ne faut pas se confier en n'importe qui. Et aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur la troisième épître de Jean. C'est quelque chose qu'on ne lit peut-être pas trop fréquemment, c'est très court, mais c'est très intéressant de réfléchir un peu à ce que nous dit cette troisième lettre de Jean. Alors d'abord, qui est Jean ? Jean, c'est quelqu'un qui est important dans la Bible. Il a écrit plusieurs choses. C'est le frère de Jacques, fils de Zébédée. On en entend parler plusieurs fois de cette manière dans l'Évangile. Et il a probablement été d'abord disciple de Jean le Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, avant de rejoindre Jésus. Et lorsqu'il a vu Jésus, lorsque Jésus l'a appelé, eh bien, il a assez rapidement compris que Jésus était le Christ. Et il va le suivre pendant 3 années, pendant à peu près 3 ans, avec tous les autres apôtres. Et Jean fera partie notamment de 3 témoins qui ont été privilégiés, puisque ces 3-là verront le Christ rayonner dans toute sa gloire sur la montagne dite de la Transfiguration, parce que Jésus va être transformé, donc il va avoir vraiment une apparence de lumière, et ça c'est une révélation extraordinaire et très forte pour Jean et pour Jacques et Pierre qui l'ont accompagné sur cette montagne où Dieu leur a dit et leur a révélé « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis avec Pierre, Jean est aussi l'un des disciples à être en mesure de suivre Jésus lorsqu'il a été arrêté. Et on retrouve également Jean lors de la crucifixion, lorsque Jésus a subi ce supplice sur la croix. Et alors que Jésus se trouve sur la croix, Jésus va demander à Jean de prendre soin de sa maman, de Marie. Et c'est aussi Jean qui est là lorsque le Christ va retrouver ses disciples quelques jours après sa résurrection. Jésus était mort et Jésus est ressuscité. Et c'est le premier en tout genre, en la matière, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et c'est quelque chose, ce sont des vérités tout à fait extraordinaires. Et Jean a expérimenté toutes ces différentes vérités. Et dans les lettres qu'il écrira aux églises, Jean dira qu'il a vraiment été proche de l'Église, de Jésus. Et on peut lire dans la première lettre de Jean déjà ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Et nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils, que nous sommes en communion. Voilà comment commencent les lettres de Jean, la première que nous n'allons, sur laquelle on ne va pas se concentrer aujourd'hui, puisqu'on va avoir la troisième. Jean va faire aussi constamment l'expérience d'une profonde amitié et une connaissance spirituelle avec Jésus-Christ. Quand on lit les récits de Jean dans son évangile, on s'aperçoit que Jean est le disciple qui a vraiment bien perçu l'amour de Christ. Il a très bien saisi qui Jésus était. Et dans son évangile, il va se présenter de manière très discrète et il va simplement dire qu'il est celui que Jésus aimait. Alors il aurait pu se présenter avec une autre étiquette beaucoup plus sérieuse, qui impressionne, mais non. Non, Jean va se limiter à se présenter à être celui que Jésus aimait. Parce que pour lui, c'est un titre extraordinaire de noblesse. Et il gardera un lien constant avec Christ, puisque plus tard, dans un texte célèbre, très important aujourd'hui encore, l'Apocalypse de Jean, il va partager l'extraordinaire révélation qu'il a reçue de lui. Alors après ces mots d'introduction, que nous montre la troisième lettre de Jean ? Il s'agit en fait d'un petit mot qui remplit tout juste une feuille de papier ou un papyrus de l'époque que Jean a envoyé dans les années 80 du 1er siècle, juste après que Jésus et a achevé son ministère en ressuscitant et en montant aux cieux à nouveau. Et c'est avec le titre d'ancien qu'il écrit, parce que Jean était âgé, et il écrit non pas à toute une église, mais il écrit à Gaius. C'est une lettre plutôt confidentielle, et au début de sa lettre, il commence par lui témoigner de son affection. Et je vous propose de constater que cette lettre va nous présenter successivement trois personnes. Va nous présenter d'abord Gaius, et puis Diotrephe, un autre homme, et enfin Démétrius. Et puis bien sûr, au travers de cette lettre, on va découvrir un peu mieux, on va découvrir quelques aspects de la vie de Jean. Alors je vous propose de commencer sa lecture en lisant les six premiers versets de cette troisième lettre de Jean. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Jusque-là, notre lecture. Gaius nous est présenté comme un homme de qualité, bon, juste, qui agit avec générosité à l'égard d'autres frères, d'autres chrétiens qui étaient de passage, à tel point que ces hommes de passage ont pu témoigner à Jean qu'ils ont été bien reçus par Gaius. Et alors, Jean va encourager Gaius à poursuivre son action à l'égard de telle personne. Ça, c'est l'un des messages de cette lettre. Et sa lettre débute par des vœux de santé, de prospérité pour Gaius. Donc on s'aperçoit d'emblée que ce n'est pas vraiment un concentré de principes théologiques un peu abstraits auxquels on pourrait s'attendre dans une lettre qu'on trouve dans la Bible. Quelque chose qui nous fasse longuement réfléchir, nous arrêter. Oui, alors on peut s'arrêter sur cette lettre. Mais en fait, cette lettre, elle est un peu comme un cliché, mais un cliché, une photo, une sorte d'instantané qui nous fait découvrir la personne dont il est question. Et qui nous fait découvrir que les personnes dont il est question dans la Bible ne sont pas forcément de grands personnages desquels il faut s'approcher, mais pas trop, hein, parce qu'on pourrait, voilà, on pourrait avoir des craintes, on pourrait se poser de nouvelles questions. Ben non, ce sont des personnes de la vie de tous les jours. Ce ne sont pas des personnes qui émettent de belles phrases bien ronflantes. Ce sont des questions sérieuses, pleines de religiosité, mais ce sont des personnes qui, souvent, bien souvent, dégagent quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait plaisir. On pourrait dire que souvent, ce sont des hommes tout à fait normaux dans leurs propos, mais dans ces propos qui semblent anodins a priori, ben, il se dégage quand même l'amitié qui existait entre des chrétiens de différentes régions. Alors n'oublions pas que c'est un échange de courriers, et à l'époque les distances étaient beaucoup plus grandes qu'avec l'Internet aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ou quand on a envie de parler à son frère ou à sa belle-mère qui se trouve à 1000 km, eh bien, il suffit d'appuyer sur quelques boutons, et dans 5 minutes, la belle-mère ou la personne concernée, je ne sais pas pourquoi je parle de belle-mère, hein, j'en ai plus hein, de belle-mère, je vous dis pour l'instant. Mais voilà, la belle-mère savait, ou le frère, ou la personne à qui on s'adresse, savait tout de suite de quel bois on se chauffe, hein, et quelles étaient les choses qu'on avait à leur transmettre. Jean, ici, considère Gaius comme un ami très proche, et qui est source de joie. C'est important d'avoir dans la vie des amis qui sont source de joie. Qu'est-ce qui provoque la joie de Jean ? Ben Gaius manifeste plusieurs caractéristiques. Il manifeste de la sincérité. Il manifeste la vérité. Il manifeste la fidélité et l'amour. Et c'est ce qu'on découvre dans ces versets 3 et 4, dans les versets 5 et 6 pour l'amour et la fidélité, à l'égard de frères qu'il a pu accueillir chez lui. Peut-être même que la relation de Jean et de Gaius était encore plus personnelle, puisqu'il fait référence à « mes enfants ». Jean, lorsqu'il s'adresse aux églises, a souvent parlé de « mes petits-enfants » dans ses lettres, hein, les deux autres lettres aussi. Et dans celle-ci aussi, à Gaius, il s'adresse de la même façon, et cela suggère peut-être, on n'en sait rien, mais que Gaius devait, pour une certaine partie, sa conversion à l'apôtre Jean. Peut-être que c'est en entendant l'apôtre Jean et en le voyant, en le découvrant, qu'il a compris que Jésus était vraiment ce qui importait pour sa vie et qu'il a pu se tourner vers Jésus. Et nous aussi, aujourd'hui, eh bien, on peut se tourner vers Jésus-Christ si on ne l'a pas encore fait, ou se retourner vers lui, ou reprendre contact avec lui si on ne l'a pas encore fait, parce qu'au travers de Jésus, comme le dit la Bible, comme le dit Jean lui-même dans son évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, c'était son Fils unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternel. Voilà ce que nous dit ce chapitre, ce verset 16 du chapitre 3 de Jean. Et il nous dit aussi, Dieu n'a pas envoyé tout de suite après, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors voilà qui est source de joie pour Jean au sujet de Gaius, au sujet de l'Église, Jean se réjouissait si les gens de l'Église continuaient à marcher dans la vérité. Alors, c'est vrai qu'on peut, comme Pilate d'abord, se demander, hein, un jour dans l'Évangile, il était confronté à des décisions extrêmement difficiles à prendre concernant Jésus, qui était accusé par les Juifs, et Pilate ne trouvait pas en Jésus des raisons de le condamner. Et puis finalement, il tergiversait. Et puis sa grande question, c'est « qu'est-ce que la vérité ?» C'est une question qui m'a toujours frappé, parce qu'en fait, il n'a pas trouvé de solution. Et il a fini par condamner Jésus. Et qu'est-ce que la vérité? C'est une question que beaucoup de gens se posent aussi aujourd'hui. Ben, je crois pouvoir dire que la vérité, on la trouve dans la Bible. Et Jésus a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. On trouve ça aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Et je crois qu'en lisant la Bible et en cherchant à la découvrir, on finit par trouver la vérité. Et c'est quelque chose d'important de trouver la vérité. Aujourd'hui, on a un peu tendance à dire que chacun sa vérité, c'est vrai, mais ce ne sont pas forcément des vérités différentes. Ce sont des vérités perçues différemment. C'est une vérité perçue différemment. Mais moi, je crois vraiment qu'il y a une vérité et pas 36. Et que toute notre vie, on fera bien de la consacrer à chercher cette vérité si on ne l'a pas encore trouvée. Jean se réjouissait si ses enfants continuaient de marcher dans la vérité. Et on peut chercher la vérité, c'est une chose. On peut finir par la trouver, et c'est heureux. Et je crois que le Seigneur, si on le lui demande sincèrement, veut nous aider à la trouver. Mais après, on peut marcher dans la vérité. Et marcher dans la vérité, c'est pas faire du surplace. Marcher dans la vérité, c'est progresser dans la vérité. C'est plus qu'adhérer simplement à la vérité. Et celui qui marche dans cette vérité, c'est un chrétien accompli, en qui il n'y a pas de distorsion, qu'il n'y a pas de dichotomie, de différence entre la profession de foi, oui je crois ça, et la pratique. Parce que la foi, oui je crois ça, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences qui se manifestent en action. Et il est bon d'avoir le plus possible d'harmonie dans notre vie entre ce que nous croyons et ce que nous faisons, la manière dont nous mettons en pratique notre foi. Et il n'y a pas de plus grande joie pour Jean de voir que ses enfants marchent dans la vérité. Alors, évidemment, Jean ne considère pas les questions théologiques comme insignifiantes. Pour lui, il n'y avait pas de plus grande joie de voir ses enfants croire en la vérité et aussi donc obéir à cette vérité. Chercher à obéir à cette vérité, c'est marcher dans la vérité. Voilà ce qu'on peut dire de Gaïus. Les versets 7 à 8 nous permettent de voir que les frères dont il est question et qu'a reçu Gaïus n'étaient pas des touristes. Et on lit au verset 7 et au verset 8 « Car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. » Jusqu'au verset 8. Il s'agissait donc d'ouvriers qui travaillaient à quelque chose de précis, à une mission. Au début, on a vu que Jean dit à Gaïus qu'il souhaite sa prospérité, qu'il souhaite que pour lui tout aille bien. Et beaucoup de chrétiens se sont même demandé si Dieu n'accordait pas systématiquement la prospérité à ceux qui se confiaient résolument en lui. Il y a même toute une théologie qui prétend que si nous sommes chrétiens, Dieu veut absolument nous donner toute la prospérité dont nous avons besoin. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est une théologie qui est démentie par les faits. Jean souhaite bien la prospérité à Gaius, que tout aille bien pour lui, mais dans ce texte, Jean va aussi faire l'éloge de ses serviteurs qui sont venus totalement désintéressés. Et ceux-là, ils n'étaient pas prospères, ils étaient pauvres, ils ont accepté les risques et le dénuement par amour de Christ. Imaginez, tout laisser et partir avec le projet d'annoncer, de témoigner l'amour de Dieu aux hommes. Voilà ce que ces gens ont fait. Et Jean va surtout valoriser ces hommes qui ont pris des risques, qui ont choisi la pauvreté pour apporter l'amour de Dieu aux autres. Et pour Jean, ce sont là des exemples, parce qu'ils ne cherchent pas à se mettre eux-mêmes en valeur, à s'enrichir. Et pour cette raison, ils sont dignes d'être soutenus, et même d'être soutenus financièrement. Et notre Église soutient aussi des personnes qui se sont engagées de manière plus constante, de manière régulière, à faire quelque chose, à être quelque chose qui témoigne l'amour, qui témoigne de l'amour de Jésus-Christ. Et cela doit nous encourager à continuer à soutenir de telles personnes, que ce soit dans le cadre de l'Église ou que ce soit dans notre cadre personnel. On sait, d'après d'autres lettres échangées entre Églises, qu'à cette époque, l'Église formait un vrai réseau d'entraide et d'hospitalité qui passait par-dessus les couleurs de peau même, les identités nationales. L'Église, c'est une première manifestation assez forte de ce qui peut exister internationalement. Et les chrétiens vivent quelque chose de tout à fait différent, parce que des gens qui sont a priori éloignés les uns des autres, qui avaient des intérêts différents, eh bien finalement sont intégrés et reconnus dans une forme d'égalité et de vraie fraternité. Et ces vraies relations fraternelles vont constituer l'un des axes qui permet à l'Église de rayonner dans tout l'Empire romain à l'époque. Alors voilà ce qu'on peut dire de Gaius et aussi de ses frères qu'il a reçus. Malheureusement, cette lettre se poursuit en décrivant quelqu'un qui n'a pas exactement cette bonne attitude. Et Jean va poursuivre son écrit en parlant d'un autre style de chrétien, puisqu'il s'agit aussi d'un chrétien, qu'il faisait partie manifestement de l'Église dont Gaius était très probablement le responsable. Et on peut lire les versets 9 et 10 qui nous disent ceci. « J'écris quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui... » C'est de lui qu'on va parler. « Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens... je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche, et il les chasse de l'Église. » Alors c'est un peu la douche froide, hein. Tout d'un coup, on bascule vers la présentation de quelqu'un de très différent parmi les chrétiens. Et malheureusement, l'histoire de l'Église nous apprend que ce n'est pas une exception. Souvent, l'Église a été dominée par des personnes sans scrupules, même violentes. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Inquisition, où des tyrans vont mettre en place des systèmes de terreur qui vont poursuivre et mettre à mort des innocents. Tout ça dans le cadre de l'Église. Alors, quel contraste! Quel contraste avec le Christ qui s'est donné lui-même par amour. On l'a déjà vu dans Jean 3, 16. Et c'est peut-être pour Jean la dimension la plus diabolique, c'est-à-dire là où l'adversaire semble prendre le dessus quand à l'intérieur de l'Église, des personnes se mettent à exercer ce type d'abus, parce qu'il s'agit d'abus. Rappelons-nous que c'est tout au début de l'Église que ça arrive. On n'est pas au Moyen-Âge ou des milliers d'années plus tard, ou des centaines d'années plus tard, où on constate d'autres, toutes sortes de dérives. Mais on est vraiment rapidement après la naissance de l'Église. Et on peut déjà observer ce type de dérapage. Apparemment, le ver était déjà dans le fruit, et quand le mal vient faire son nid dans l'Église, la première conséquence, c'est qu'en fait, il va chercher à corrompre l'image, et à fausser l'image du Christ. Alors aujourd'hui, encore 20 siècles après ces événements, beaucoup de gens ignorent qui est le Christ. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, notamment. Et s'ils ne lisent pas la Bible, ben, tout à fait logiquement, ils vont lire dans la vie des chrétiens. Ils vont lire dans ma vie. Alors, la question se pose, que vont-ils lire dans ma vie ? Parce qu'évidemment, cette lecture va les influencer dans leur choix, profondément. Donc ma vie a cette importance qu'elle peut révéler certains aspects de ma ressemblance au Christ, si Jésus vit en moi. Alors est-ce qu'ils vont y découvrir de la sincérité ? Est-ce qu'ils vont y découvrir de la fidélité, de l'amour, de la vérité ? Jean va donc nous donner un conseil radical. Au verset 11, on lit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » C'est radical, très très radical. Je peux être pasteur, prêtre, théologien, je peux proclamer que je suis proche de Dieu, je peux connaître toute la Bible, mais si je fais le mal, c'est la démonstration pratique, c'est un verdict, ça veut dire que je ne connais pas réellement qui est Dieu. Ça fait un peu penser à la manière dont Paul traitait cette affaire au chapitre 13 des Corinthiens. Au lieu de parler du bien et du mal, il parlait de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, et l'amour est bien la démonstration de ce qu'est le bien, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On voit bien que ça rejoint cette même idée-là. Je ne connais pas vraiment qui est Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas un savoir intellectuel, ce n'est pas une pratique, c'est une expression. Celui qui est bien est proche de Dieu. Ceux qui font le bien sont les personnes qui vont le plus facilement accueillir l'œuvre de Christ dans leur vie. Ils sont déjà proches de Dieu et ils vont trouver le Christ. Ils vont trouver la manifestation du bien, la manifestation de cet amour. Alors Jean nous montre bien que la Bible, ce n'est pas simplement une morale avec des devoirs. Et la lettre qui devenait pessimiste se termine par un témoignage encourageant, celui de Démétrius. Et on lit au verset 12, « Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage, et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. » Vous sentez l'importance, toujours, de la vérité. Et alors, le verset 13, on aurait bien aimé connaître la suite, mais apparemment, le Seigneur, et Jean aussi, mais le Seigneur certainement a voulu que nous n'en sachions pas trop davantage. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et le papier et la plume. Pourquoi ? Parce que les SMS, les mails, et tout ce qui n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui on en est là, il vaut mieux s'adresser directement aux gens en les ayant en face, en voyant leur regard, en tenant compte de ce qu'ils nous disent aussi, et en pouvant obtenir une réponse rapide et immédiate et aussi directe. Alors, Jean aussi, à l'époque, nous conseille déjà d'être direct. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume, à cause des déformations que ça peut entraîner. J'espère te voir très bientôt, et nous parlerons de vive voix. Tout ce qu'on peut faire de vive voix, faisons-le de vive voix, et pas de vif mail ou de vif SMS. Ce n'est pas la même chose, hein, par exemple. Et il achève cette lettre en disant que la paix soit avec toi, les amis te saluent, saluent les amis, chacun en particulier. Alors quel est l'enseignement qu'on peut retenir de cette lettre encore, brièvement ? Déjà à l'époque, et aujourd'hui encore, il y avait en tous les cas deux sortes de chrétiens. Il y avait des chrétiens qui aiment, qui accueillent, qui sont justes, qui sont généreux, qui marchent dans la vérité. Et puis il y a ceux qui sont plutôt orgueilleux, parce qu'ils ont la tendance à tout régenter, hein, à vouloir être le premier, à faire preuve de hardiesse, qui peut se transformer assez facilement en arrogance, parce qu'ils sont avides d'être le premier, d'être riche, d'être prospère uniquement. Ils se préoccupent davantage d'eux que des autres. Alors on pourrait utiliser ce texte, évidemment, pour évaluer les autres. Mais il y a les uns, et moi je fais partie des uns, pour l'instant. Pour vous, je fais partie des autres. Mais moi, quand je pense à ça, je fais partie des uns. Et au lieu d'utiliser ce texte pour évaluer les autres, utilisons-le pour réfléchir à ce que j'en dirais en nous observant, en m'observant. Qu'est-ce qu'il dirait en m'observant ? Est-ce qu'il me verrait comme un bon témoin du Christ ? Cette question nous invite à mettre de côté le mal, à faire le maximum pour mettre de côté le mal, et nous invite à l'amour de Dieu, selon cette parole qui semble être l'un des points forts de cette lettre tout entière. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui vit l'amour est de Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. Alors que cette lettre nous encourage aujourd'hui, et puis nous encourage aussi dans les jours qui viennent, à réfléchir à notre attitude face à ceux qui sont dans l'Église, et puis face à ceux qui sont à l'extérieur, puisque notre but est de les amener à la connaissance du Seigneur, et à une connaissance qui soit pour eux aussi, qui devienne pour eux aussi une vraie connaissance, qui les encourage à croire à la vérité et aussi à marcher dans la vérité et à lui obéir. Sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons pas parvenir à de tels objectifs. Alors je prie, Seigneur, tu connais nos manquements, nos faiblesses dans ces domaines-là, et tu vois toute la radicalité de ce qui est exprimé là. Seigneur, fais-nous la grâce d'ouvrir nos yeux, de ne pas placer nos lunettes à nous devant eux, des œillères qui nous empêchent de voir ce que tu veux nous dire dans ton amour. Seigneur, la Bible est une lettre d'amour que tu nous envoies. Bien sûr, nous y trouvons des conditions, mais nous y trouvons aussi ta patience, nous y trouvons ta miséricorde et nous y trouvons ton amour. Et Seigneur, nous aimerions vivre davantage, nous aspirons à vivre davantage en accord avec les normes que toi, tu nous proposes. Merci Seigneur de nous aider à continuer à les découvrir au quotidien, au jour le jour, dans notre vie de chaque jour. Merci pour ta parole pleine de tant d'enseignements riches pour nous. Accorde-nous la grâce de l'aimer toujours davantage et de nous en nourrir chaque jour. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.